Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Exterior de España.
L'émission en français.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Polygraphe.
Vers la modernisation de la police.
Recueil écrit en prison.
Relations diplomatiques.
Confluence hispanique.
Dans le champ de la citoyenneté.
Caïman Barbudo.
Le mouvement autonome.
Entre l'université et la société.
Une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Exterior d'Espagne. Amina Damerji, membre scientifique de la Casa de Velázquez. Sujet, Cuba, jeunesse, révolution et poésie.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón.
Amina Damerji, bonjour.
Bonjour.
Alors, Amina Damerji est poète. Ça, il faut le souligner parce que ce qu'elle va dire après est important. Mais Amina Damerji ne travaille pas sur la poésie espagnole, ni de ce siècle, ni du précédent, ni du siècle d'or. Elle va nous emmener directement à La Havane, enfin Cuba en général, parce que Amina Damerji a beaucoup travaillé sur la poésie cubaine révolutionnaire. Et ce qui m'a attiré l'attention, c'est le paradigme du jeune révolutionnaire dans le champ littéraire cubain. Ah ouais. Ça m'a attiré l'attention parce que d'abord, la notion de jeune en politique est quelque chose qui finalement a accompagné les penseurs depuis longtemps, puisque Max Weber même consacre, il n'était pas trop d'accord pour considérer que la jeunesse était une valeur en soi. On va aller avec toi donc à ce champ poétique littéraire cubain pour savoir pourquoi le paradigme del joven a pris une telle importance.
Oui, et pourquoi ces poètes-là s'en emparent tout d'un coup. Alors effectivement, c'est-à-dire qu'au début de la révolution cubaine, tout se remodèle. Donc le champ poétique, le champ littéraire lui-même se reconstruit complètement avec une nouvelle génération qui cherche à être les poètes de la révolution. Et en 65, une lettre du Che est publiée dans un journal uruguayen. Et cette lettre donc s'appelle « Le socialisme et l'homme à Cuba ».
Alors, pour nos auditeurs francophones, c'est plutôt « Socialisme et l'homme à Cuba », édition Maspero. Hein,
c'est vrai que ça a été édité par Maspero.
Ça a été édité par Maspero. Donc, si vous voulez, le lire ou avoir plus de précisions, c'est ça qu'il faut chercher.
Et dans cette lettre, donc Ernesto Guevara insiste sur une idée, c'est que les intellectuels et les artistes formés avant la Révolution sont marqués par les stigmates de la bourgeoisie. Et donc il s'agit à ce moment-là vraiment de trouver pour la Révolution de jeunes artistes, y compris des poètes, qui pourront être les poètes officiels du régime. Donc on va chercher, mais les institutions cubaines, donc le parti en fait, va chercher ces jeunes-là. Et il tombe donc sur une bande de jeunes poètes qui suit des ateliers dans l'Union des écrivains et artistes cubains, l'UNEAC, et donc leur donne une revue diffusée à plus de 30 000 exemplaires et dans tout le pays. Et ces gens-là insistent, donc la revue s'appelle le Caïman Barbudo, le Caïman Barbu, donc les Caïmans Barbus, insistent sur le fait qu'ils sont jeunes parce que c'est là en fait qu'ils tirent toute leur légitimité. C'est parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont révolutionnaires. Et c'est parce qu'ils sont révolutionnaires qu'ils sont de bons poètes. Donc leur rhétorique vraiment s'appuie sur cette catégorie-là de la jeunesse. Et c'est ce qui est aussi assez intéressant, c'est que la catégorie de jeunes est d'abord née d'abord dans l'espace politique. C'est-à-dire que en fait, les leaders de la révolution sont assez jeunes. Fidel Castro, il a une trentaine d'années. Et au moment du premier assaut au Cuartel Moncada, les guérilleros ont une vingtaine d'années. Donc cette jeunesse-là, c'est aussi une façon de légitimer leur propre place. C'est aussi, ça cadre aussi avec une rhétorique révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est celle de la nouveauté. Donc d'ailleurs, il y a une sorte de synonymie entre jeune et nouveau à cette époque-là. On parle d'art jeune, de poésie jeune ou alors d'art nouveau. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'il y a un festival de cinéma latino-américain qui est très réputé, qui a lieu à La Havane tous les mois de décembre, donc depuis le début de la Révolution, et qui s'appelait Festival de Cine Nuevo jusqu'à il y a 2 ans. Il y a eu tout un débat à Cuba pour dire que peut-être on pouvait enlever cet adjectif nuevo, puisque finalement la Révolution était peut-être devenue un peu plus ancienne.
Oui, c'est ça le problème avec la jeunesse,
c'est que ça se périme.
Il y a aussi toute cette la Isla de la Juventud qui a été vendue au monde entier.
La Isla de Pinos, donc cette île, en fait, elle a toute une histoire passionnante parce qu'elle appartenait, en fait, les États-Unis s'en emparent au moment où ils sauvent Cuba de la colonisation espagnole et donc par le fait colonisent d'une certaine façon l'île. Ils s'emparent de la Isla de Pinos et c'est seulement plus tard qu'ils rendent cette île-là aux Cubains. Et au moment de la Révolution, le régime décide de la renommer et de l'appeler Isla de la Juventud, l'île de la jeunesse, comme un symbole donné à toute la jeunesse.
Pour revenir à ce groupe qui fait de El Caïman Barbudo son cheval de bataille, quand même un tirage assez important pour ce qu'est Cuba et surtout à cette époque-là. Mais tu dis à un moment donné que, en fait, cette démarche, ce concept de nouveau, jeune, etc., est forgé plutôt pour les garçons, pour les hommes.
Oui.
Et les femmes sont plus ou moins exclues, ou alors quand on les admet, c'est toujours dans une perspective conquête, guapas, on s'intéresse beaucoup plus à leur corsage que...
Alors, pas tellement au moment de la Révolution, mais c'est vrai qu'il y a une virilisation du concept de jeune, mais dans lequel les femmes sont incluses, en fait, dans cette catégorie de jeune, si elles se virilisent aussi. Mais ça vient de toute l'histoire du combat. Donc, c'est les Caïman Barbudos. Donc, aucun d'eux n'est réellement barbu, hein, d'ailleurs, quand on regarde les photos. Mais donc, Barbudo, cette barbe, qui est en référence à celle qu'avaient les guérilleros au moment de la guerre révolutionnaire. Et en fait, ils ont été appelés Barbudo d'abord dans les jours. Parce que bah ils pouvaient pas se raser et c'est ensuite devenu un symbole de la révolution. Ils ont gardé cette barbe là pour comme une trace de cette lutte menée dans la Sierra Maestra. Donc effectivement, puis alors ce groupe que j'étudie, donc c'est 14 poètes et un romancier qui est directeur de la revue, qui ont une petite vingtaine d'années en 66 quand la revue est fondée, ne sont tous en fait des hommes blancs et hétérosexuels. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait au même moment il y a un groupe rival du même âge qui est écarté plus ou moins par les caïmans barbus, mais déjà un peu avant par certaines institutions littéraires cubaines. Et dans ce groupe-là, ce groupe s'appelle El Puente, du nom d'une maison d'édition qu'ils ont fondée. Et dans ce groupe-là, il y a des femmes, des noirs et des homosexuels. Et en fait, c'est un des motifs qui les disqualifie. Qui les disqualifie dans l'espace littéraire. C'est justement le fait que, au moment où on essaye de créer cet homme nouveau, on essaye de rassembler tous les Cubains sous une même identité d'homme nouveau, on ne peut pas tellement accepter vienne apparaître la question des identités, qu'elles soient raciales, sexuelles, etc., de genre. Et donc El Puente, à ce moment-là, qui est davantage inspiré par les Black Panthers avec lesquels ils ont des liens, ne trouve pas sa place. Et donc beaucoup s'exilent. D'autres, finalement, réussiront tout à fait à percer hein, dans l'espace littéraire. L'un d'eux a dirigé l'Union des écrivains quelques années plus tard. Donc ils ont réussi à trouver par d'autres voies, en dehors du groupe, une façon de percer dans l'espace littéraire.
Oui, alors cela perce dans l'espace littéraire par leurs propres moyens, mais que deviennent los... Est-ce que les los caimanes barbudos, en plus d'exclure les autres, je suppose, des publications, etc., dans leurs propres revues, je suppose qu'ils n'admettaient pas les têtes pensantes d'El Puente ou d'un autre groupe.
Et c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire
alors,
que...
vas-y, explique-nous cette complication.
C'est-à-dire qu'on leur a reproché, effectivement, en ce moment à Cuba, justement, il y a un débat très vivace autour de cette question du débat entre Caïman et Caïman Barbu et El Puente. On accuse les gens d'El Puente qui sont réhabilités depuis la récente réhabilitation de l'homosexualité par Mariela Castro. Il y a parallèlement toute une réhabilitation des mouvements littéraires qui auraient été exclus sur ces critères-là, donc entre autres l'homosexualité de certains écrivains. Et du coup, on fait des caïmans barbus, les bourreaux de El Puente, comme si c'était eux vraiment qui les avaient exclus. Mais en fait, non, hein, ce sont les institutions littéraires et politiques cubaines qui ont exclu El Puente. Les caïmans barbus, eux, ont défendu leur place comme le faisait n'importe quel groupe littéraire. Et ensuite, de façon un peu plus détaillée, il y avait des liens d'amitié entre certains membres d'El Puente et certains membres d'El Caïman. Mais ils ont même proposé à l'origine dans la revue, le rédacteur du manifeste, Guillermo Rodriguez Rivera, a même proposé à certains membres d'El Puente de rejoindre El Caïman. Ils ont refusé parce qu'il y avait des divergences esthétiques, politiques, etc.
Hasta donde debemos practicar las verdades.
Parmi ces divergences esthétiques et poétiques, toi, tu relèves l'aspect ludique.
C'est le cœur de ma thèse, oui.
Voilà, l'aspect ludique des productions de ce groupe d'El Caïman Barbudo. Ce n'est pas un discours révolutionnaire à l'usage. On n'est pas dans la Russie des années 50 ou des années 40, on n'est pas dans l'Europe de l'Est, on n'est même pas dans certains pays du tiers-monde récemment indépendants. On est dans le jeu, on est dans la créativité.
On est dans la créativité et ce qui m'intéresse avec le jeu que ces caïmans barbus développent, sans jamais vraiment le théoriser, hein. Mais c'est plutôt une attitude qui est à la fois visible dans les textes, c'est-à-dire qu'on a toujours l'image d'un poète joueur qui joue avec son lecteur, mais pas simplement avec les mots, parce que souvent quand on parle de jeu en littérature, on parle de jeu de mots. Et là vraiment ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est un ethos, une attitude qui est valable autant dans l'espace littéraire que dans l'espace social, quand ils se mettent à être coursés par la brigade des mœurs parce qu'ils ont des cheveux trop longs ou parce qu'ils planquent des CD des Beatles dans des pochettes de vinyle de chants révolutionnaires, parce qu'ils ont des pantalons trop serrés, etc. Parce qu'ils vont faire des lectures sauvages dans le bus. Donc tout ça, c'est une attitude, en fait, une mise en scène sociale de poète-joueur. Mais alors ça va aussi avec le fait qu'ils sont jeunes. C'est-à-dire qu'ils disent, nous on joue parce qu'on est jeunes. Donc ça crée une certaine légitimité. Mais ce qui est aussi intéressant avec le jeu, c'est que ça permet de donner forme et sens à l'ambiguïté du rapport des écrivains et de ce groupe-là en particulier avec les institutions littéraires cubaines. Parce que vraiment, ce que je trouve intéressant avec ces poètes-là, c'est qu'ils affirment leur identité révolutionnaire, tout en cherchant à avoir une posture critique au sein de la Révolution. Et c'est toute l'ambiguïté, la difficulté de leur positionnement. Et je pense que par le jeu, justement, ils arrivent à assumer cette tension-là et à la rendre dans les textes.
On n'est pas face à des intellectuels organiques.
Non, pas du tout, justement. Ils luttent contre cette fonction-là de l'intellectuel qui commence à se mettre en place à la fin des années 60, donc au moment où ils sont éjectés de la propre revue qu'eux-mêmes ont créée.
Alors, ce groupe, à un moment donné, il se dissout de fait.
Alors, il ne se dissout pas vraiment, c'est ça qui est intéressant.
Il n'existe plus comme Caïman Barbudo.
Ce qui est ambigu, encore une fois, c'est que la revue continue à exister. On les renvoie de la revue qu'ils ont créée. Mais la revue continue à exister sous le même nom. Elle existe encore aujourd'hui. Mais donc c'est pire finalement que d'avoir fermé la revue, parce que
oui,
la revue avec le même nom garde une autre identité avec le même nom. Mais dans l'espace littéraire, encore aujourd'hui, dans l'histoire de la littérature cubaine, dans les manuels d'histoire littéraire cubaine ou latino-américaine, ils gardent ce nom de Caïmanes Barbudos. Donc ils sont identifiés comme les Caïmans Barbus, sont eux les Caïmans Barbus. Par ailleurs, le groupe éclate. Donc, un an et demi après, ils sont renvoyés. Certains s'exilent quelques années plus tard, d'autres s'exilent bien plus tardivement. D'autres restent sur l'île. Et certains, même, ont une vie institutionnelle assez réussie. D'autres vivent de façon plus marginale. Bref, il y a une diversité de trajectoires qui n'empêche pas que le groupe se reforme à deux moments. Au moment de la mort d'un des poètes principaux du groupe, qui est Luis Rogelio Nogueras, qui est le plus grand poète joueur, je pense, de toute l'histoire littéraire cubaine, qui était un jeu à l'état pur. Et donc à ce moment-là, il y a toute une série de commémorations autour de sa mort qui fait que le groupe se reforme en publiant des anthologies, en organisant des lectures publiques, en publiant des articles, etc. Et il y a un deuxième moment fondamental qui est celui de la création d'une seconde revue qui tâche de réunir à nouveau le groupe dispersé aux quatre coins du monde, enfin surtout entre Cuba, Miami et l'Espagne. Et donc c'est la revue Encuentro con la Cultura Cubana qui est fondée par Jesús Díaz exactement 30 ans après, donc en 1996, 30 ans après la première revue, à Madrid, ici. Et il se met à écrire aux anciens membres de la revue du Caïman en leur disant « Bon, maintenant je refonde un projet », donc le même directeur qui réunit les mêmes collaborateurs. Il obtient des réponses assez diverses, mais ce qui est intéressant, c'est que certains refus de participation sont aussi publiés dans la revue. Et donc le groupe se reforme, mais la compagnie de Jésus, comme dit l'un d'eux, se reforme.
Voilà. Bien, alors la compagnie de Jésus a été ce qui t'a intéressé de cette vie culturelle cubaine qui est quand même extraordinairement dynamique pour un pays de 11 millions d'habitants.
Oui.
Et je crois que c'est peut-être aussi parce que tu es poète.
Alors oui, sans doute.
Ce n'est pas simplement une curiosité académique.
Non, effectivement, je suis venue à ce sujet parce que à cette époque-là, donc je venais de fonder une revue de poésie avec d'autres copains, une revue de poésie critique, et je lisais beaucoup de poésie contemporaine. J'en écris toujours, et il y avait quelque chose que je n'arrivais pas tellement à définir dans un certain type de production poétique actuelle, que je nommais ludique, c'est-à-dire un certain rapport au lecteur que je trouvais un peu faux, qui sonnait un peu faux, mais je ne savais pas tellement comment le définir. Et puis lors d'un voyage à Cuba, je discutais avec un de mes amis qui est Jorge Fornet, qui travaille à la Casa de las Américas, qui est critique et écrivain, et il me dit, je lui parle de cette poésie ludique qui me déplaît et en même temps que j'arrive pas tellement à comprendre, etc. Il me dit « Ah, bah alors il faut que tu lises absolument notre grand poète ludique, Luis Rogelio Nogueras. » Donc je dis « Bon, d'accord, je vais regarder. » Et je tombe sur ses œuvres complètes qui sont publiées sous le titre « Hay muchos modos de jugar »,« Il y a plusieurs façons de jouer ». Et là, je suis assez fascinée parce qu'effectivement, j'ai l'impression que tout ce qui me déplaisait est contenu dans cette poésie, mais puissance 15. Et donc, en fait, c'est pour comprendre cette poésie qui me déplaît, en fait, au départ, mais par antipathie, en fait, que je vais vers ce sujet-là. Et donc, je l'étudie en master, ce poète, et une partie de sa production, et je me rends compte qu'il y a tout un groupe derrière, et que non seulement il y a tout un groupe, mais qu'en plus, c'est très intéressant du point de vue sociologique sur ce que ça dit de la position de l'écrivain cubain au moment de la Révolution et sur une longue période, c'est-à-dire donc de 66 à 2002. Voilà.
Je crois que tu voulais d'ailleurs nous lire un poème ou un fragment.
De Luis Rogelio Nogueras, oui.
Oui, nous sommes très curieux, tu sais, ici.
Oui, donc c'est un poème que j'ai traduit, donc je suis en train de traduire ces poètes. Donc le poème s'appelle « Les inconnus de toujours », sous-titré « Discours prononcé sur la tombe de l'écrivain inconnu le 21 mai 1966 ». Camarades, il fallait sans aucun doute dresser un monument pour ces hommes. C'est sûr, ils ont à peine fait un peu de bruit. On citait ensuite dans l'assistance la fable de la mouche et de la vitre. Mais ils abritaient un dessein transcendantal qui occupait toute leur existence. Il y a simplement quelque chose qui s'est mal passé, un détail de rien du tout peut-être, et ces hommes n'ont pas été ce qu'ils auraient pu être. Applaudissements. Il faut ouvrir une fois de plus nos fenêtres à l'espoir, dédier un hommage à ces hommes, à leurs possibilités. Ils ont eux aussi éprouvé la nécessité de tout confesser. Ils se sont abandonnés, ils ont écrit des vers, ils ont dit « si au moins Dieu existait ». Mais c'était plus tard, quand la mort leur clouait une cloche sur la tête. L'heure est peut-être venue où l'homme ne sera pas jugé seulement pour ses actes, mais aussi pour ses possibilités, brutalement assassiné, quand cet homme est mort sans se réaliser. Ovation.
Et je crois qu'il n'est pas besoin d'expliquer longtemps, ni beaucoup à nos auditeurs. Ils ont compris ce que tu nous disais de l'aspect ludique à travers ce poème. C'est vrai que ça, quand on est habitué à une poésie révolutionnaire très formelle, très, ça déroute.
Ah oui, on s'attendrait plutôt à voir des chantres de la Révolution et des discours solennels à la hauteur des discours des leaders politiques de l'époque qui ne cessent de proclamer la hauteur des tâches à accomplir, etc.
Voilà le plan quinquennal et tous ces plans-là. Eh bien, alors juste pour terminer, Amina,
oui.
C'est vrai que tu es traductrice, c'est vrai que tu es agrégée d'espagnol, etc. Et on a compris pourquoi Cuba, mais pourquoi la Casa Velázquez ?
Ah bah justement pour ces poètes exilés en Espagne. Et cette revue qui a été reformée 30 ans après, donc le même projet de revue qui se déplace à Madrid 30 ans plus tard, et donc une partie du groupe qui s'exile à Madrid, et donc une grande partie de leurs archives et des archives de cette revue qui sont ici.
Oui, et quand on vieillit, bon là tu parles de Cubains, c'est un peu particulier, mm-hmm. mais en général, quand on vieillit, le ludique continue à être perçu et à intéresser.
Tu veux dire chez ces poètes
Chez ces poètes.
Ouais. Oui. Alors ça encore, on pourra en parler encore longtemps. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un regard vieillissant sur ce ludique, mais qui est assumé en tant que tel. C'est-à-dire et sous la thématique du jeu perdu chez certains qui se sont exilés, qui disent bon ben nous on a joué quand on était jeunes. Il y a tout un long poème comme ça de Raoul Rivero, il dit qui s'appelle La chanson des perdants. Il dit voilà, moi j'ai passé toute ma jeunesse à jouer avec mes camarades barbus et là maintenant j'ai perdu. Et c'est un très beau poème.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa.
Maria Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
Amina Damerji a publié aux éditions Pleine Page, collection Les Oubliés, un recueil de poèmes intitulé Tambour, machine.
Un día 9 de octubre del año 52. Un día 9 de octubre, rumbero del año 52. Nació en la Atenas de Cuba nuestro ritmo guaguancó. Bollito en la conga abajo, Pablo Mesa en el trego. Bollito en la conga abajo, Pablo Mesa en el trego. Chacha maestro del quinto, pega doble citajo. Saldiere virulilla, como dúo ya no hay dos. Juan Bojo tocando clave y también inspirador. Hoy esta nueva cantera, como hijo de rumbero, mantenemos la bandera de guaguancó matancongo. Guaranarí, orororororanga. Ahí con la bandera en la mano vengo yo, la bandera de mi tierra, la bandera la traigo yo.
Con la bandera en la mano vengo yo,
pero la rumba buena te ama, la bandera la traigo yo.
Con la bandera en la mano vengo yo,
que no baila, que no goza, la bandera la traigo yo.
Con la bandera en la mano vengo yo,
qué rico suena mi conga linda, qué rico suena mi cajón.
Confluence hispanique, un programme proposé par Emmanuel Zard avec Pedro Berastegui à la réalisation. Musique, Silvio Rodriguez, Playa Girón, Los Muñequitos de Matanza, Nuestro Rico Guaguancó.